Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure du premier journal. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
6h sur Europe 1, très bon début de journée.
Les performances de ces tests ne sont pas suffisantes chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Nous raterions 3 malades sur 4.
Nous aurons bien des tests salivaires en France. La haute autorité donne son feu vert, mais ce n'est pas pour tout le monde.
La 5G continue de faire débat. Nous serons à Lyon, où des opposants vont manifester contre ces dangers cet après-midi.
Une égérie des démocrates s'est éteinte cette nuit. Une juge progressiste de la Cour suprême américaine. On va essayer de comprendre l'enjeu hautement politique de sa succession.
Et puis les Beatles se réunissent 50 ans après leur séparation. Ça se passe à la Philharmonie de Paris.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une hausse très très significative. Plus de 13 000 nouveaux cas de Covid ont été détectés ces dernières 24 heures.
2600 de plus qu'hier. Un nouveau record. 850 personnes ont été hospitalisées depuis hier soir. Tous les indicateurs se dégradent. Nous alerte Santé publique France qui s'inquiète tout particulièrement pour les plus de 75 ans.
Et on l'a par ailleurs appris hier soir, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a été testé positif.
Mais il n'a pas de symptômes, donc il va pouvoir continuer à diriger le ministère de l'économie, sauf qu'il sera de chez lui puisqu'évidemment il s'est isolé.
Et voilà qui va sans doute soulager les personnels des labos. Les tests salivaires arrivent.
La haute autorité de santé donne son feu vert donc pour leur utilisation, sauf que celle-ci n'est pas pour tout le monde, Anne Le Gall.
Ces tests salivaires sont plus simples d'utilisation. Le problème, c'est qu'ils sont moins performants. Et en l'absence de symptômes, explique le professeur Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé, ils ne sont pas assez fiables pour repérer des traces de virus dans la salive.
Les performances de ces tests ne sont pas suffisantes chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Parce que chez ces personnes, nous raterions 3 malades sur 4.
En revanche, ces tests salivaires sont plus performants en cas de symptômes, même s'ils le sont moins que les tests PCR, et c'est pour cela qu'ils seront réservés aux personnes symptomatiques qui supportent mal le prélèvement dans le nez, les enfants et les personnes très âgées notamment. Pour ces patients, en cas de toux ou de rhume, le geste sera donc plus simple, de la salive dans un tube et on dépose le tout en laboratoire. En cas de résultat positif, le patient devrait être averti en 24 heures. Ces tests devraient se déployés dans les semaines qui viennent après le feu vert de l'assurance maladie pour le remboursement.
Les préfets serrent la vis un peu partout, comme à Nice.
Vous oubliez le pique-nique ce week-end sur la plage, enfin pas à plus de 10 en tout cas. Les bars, cafés, restaurants ferment dorénavant à minuit et demi. À Toulouse, la consommation d'alcool est interdite dans les espaces publics dès 13h, ça commence aujourd'hui. Pas non plus de rassemblement à 10.
Des mesures qui ne vont sans doute pas plaire aux étudiants qui doivent déjà composer avec une rentrée stressante.
Ils sont pile dans la tranche d'âge qui enregistre un rebond de contamination et sont appelés à se responsabiliser. Mais ce n'est pas forcément évident comme a pu le constater le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
Déjà que l'université, c'est pas facile, c'est sûr qu'on n'a pas une rentrée comme les autres.
Un peu paumé, c'est ce qu'ils disent, inquiets, portant tous le masque, ces étudiants de Bordeaux-Montaigne croisés sur le campus répètent l'appréhension qui les tenaille.
Le travail à distance, c'est compliqué.
Il y a forcément le coronavirus.
Le coronavirus, c'est quelque chose qui m'angoisse. Je fréquente quand même mes grands-parents beaucoup. Je fais pas les soirées étudiantes.
Jauge sérieusement revue à la baisse ici, dans les grands amphithéâtres, réduits à 30% de leur capacité d'accueil, avec donc des cours à distance mis en place par l'université que préside Lionel Larré.
De nombreux étudiants ne sont pas équipés. Nous essayons de prêter des ordinateurs à ceux qui n'en ont pas, mais clairement, nous n'avons pas assez d'ordinateurs pour leur prêter. Il faut vraiment, vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour aider toutes les universités. Nous avons débloqué des moyens pour que chacun, chaque étudiant, chaque enseignant ait un compte Zoom afin de pouvoir faire cours en direct par visioconférence. Mais nous n'avons pas d'équipement de captation vidéo dans toutes les salles.
Pas de week-end d'intégration pour cette rentrée, pas de soirée étudiante. C'est le message qu'a fait passer le président de Bordeaux-Montaigne aux étudiants dont la très grande majorité, dit cet universitaire, se montre particulièrement responsable face à cette crise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et je vous rappelle que pour l'Île-de-France aussi, beaucoup d'inquiétudes et nous recevons le directeur de l'Agence régionale de santé à 8h15, Aurélien Rousseau. À Lyon, on va marcher aujourd'hui contre la 5G.
Une marche et une chaîne humaine des opposants alors qu'Emmanuel Macron a réaffirmé que la France devrait bien se lancer dans ce nouveau défi technologique. Le président avait même ironisé qu'aux parents, les réfractaires à des amis adeptes de la lampe à huile. Jean-Luc Bougeon a assisté aux préparatifs de la manifestation.
Contre la 5G, principe de précaution, peut-on lire sur les banderoles que Denis Nicolier vient de confectionner pour la marche de tout à l'heure. Cet opposant stéphanois pointe les risques pour la santé de la 5G.
C'est une technologie beaucoup plus puissante qui va s'immiscer de façon beaucoup plus universelle puisque les campagnes, il est prévu de les équiper énormément en 5G puisque le but du jeu, c'est d'arriver à aucune zone blanche. On va baigner dans un nuage d'ondes. D'ailleurs, l'OMS estime que les ondes sont cancérogènes probables.
Autre grief, la nocivité pour l'environnement, de la 5G et de ses multiples antennes. Nous ne sommes pas contre la technologie, affirme Denis Nicolier en montrant son smartphone. Nous voulons juste la maîtriser. Il n'a donc pas apprécié du tout que le président de la République compare les opposants à la 5G à des amiches.
Je n'ai pas de lampe à huile, désolé. On caricature les gens. Est-ce que c'est ça qui fait avancer le débat? C'est un faux discours. Il faudrait aller toujours vers des chimères technologiques hein, plutôt que d'essayer de raisonner sur ce dont notre pays a vraiment besoin.
Voilà, le nombre de participants à cette journée en pleine crise sanitaire sera un bon test pour mesurer le niveau d'acceptation ou d'hostilité des citoyens à la 5G. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et pour aller plus loin sur Europe 1, Émile Meunier, qui est conseiller Europe Écologie Les Verts et avocat pour évoquer le moratoire de la 5G, sera votre invité, Pierre, tout à l'heure à 7h40. Christiane Lambert, élue présidente de la COPA, c'est le principal syndicat agricole européen, la présidente de la FNSEA et la première femme à prendre la tête de cette grande organisation européenne.
Cette information maintenant à 6h06, Lénaïque, les retraités trop indemnisés pourront conserver leur argent.
Oui, c'est rare que ça se passe dans ce sens-là, mais l'État a versé un trop-perçu à un peu plus de 200 000 retraités, une somme issue de la CSG qu'ils pourront finalement conserver. Emmanuel Duteil.
206 000 retraités avaient reçu un courrier cet été leur disant qu'ils allaient devoir payer un peu plus que prévu de CSG. C'est le genre de courrier qui, bien évidemment, fait toujours très plaisir. L'administration s'était en effet trompée dans ses calculs. Pour faire simple, en 2018, le gouvernement avait voulu augmenter le taux de CSG payé par les retraités les plus aisés. Face au tollé provoqué par cette réforme, il avait en partie reculé en mettant en place un complexe mécanisme de lissage. Mais voilà, c'était tellement compliqué que l'administration s'est elle-même trompée. Une fois n'est pas coutume, en fin de semaine, le gouvernement a décidé de jouer au grand seigneur. Il renonce à réclamer les sommes dues. Les retraités ne doivent pas subir les erreurs administratives, c'est justifié le ministre délégué aux comptes publics. Mine de rien, c'est 190 euros en moyenne de gagner selon Bercy pour les personnes concernées. Mais attention, c'est un cadeau temporaire parce que le bon taux de CSG est maintenant appliqué.
Emmanuel Duteil, la doyenne de la Cour suprême aux États-Unis s'est éteinte cette nuit. Une icône pour les démocrates américains.
Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, très populaire pour ses combats pour les femmes et les minorités. Et à peine sa disparition annoncée, la politique a repris le dessus. À moins d'un mois et demi du scrutin présidentiel, la lutte pour sa succession commence déjà, Benoît Clerc.
À 87 ans, elle était toujours adulée comme une star du hip-hop et les jeunes l'avaient surnommée Notorious RBG. Elle avait des t-shirts et des mugs à son effigie et son humour permanent faisait le délice de ses salles de conférences toujours bondées. Mais bien au-delà de cette image, elle restera l'électron libre de la Cour suprême américaine. Nommée par Bill Clinton en 1993, elle s'est toujours distinguée par des avis tranchés mais éclairés sur tous les sujets de société, attaquant tour à tour l'institution militaire pour qu'elle accepte les femmes, jouant un rôle déterminant pour le mariage gay, militant pour l'avortement ou encore en défendant le mouvement MeToo. Sa disparition ouvre une succession cruciale qui va être un enjeu de la fin de la bataille électorale de la présidentielle. Si le président Trump arrive à nommer son remplaçant dans un délai très court, le camp conservateur aura alors la majorité pour de nombreuses années. Joe Biden a immédiatement prévenu que les démocrates feront tout pour l'en empêcher. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
La Chine dénonce l'intimidation des États-Unis à propos de TikTok. Dès demain, les ados américains ne pourront plus télécharger l'application. 100 millions d'utilisateurs sont concernés.
Allez, la course mythique des 24 heures du Mans, bouleversée cette année en raison de la crise sanitaire.
D'habitude, l'événement accueille à peu près 250 000 personnes. Mais cette année, la course se déroule sans public. Une catastrophe économique et une course qui évidemment perd de son charme. Écoutez le reportage de François Coulon.
C'est une course fantôme sans ses fans venus du monde entier pour communier dans une orgie de décibels. À 300 mètres de l'entrée principale, Janina Le Bourdon, pour la première fois en 44 ans, elle tient le célèbre restaurant aux portes du circuit.
À cette heure-ci, ça devrait être plein de monde, plein. Et là, rien. Et ça, c'est terrible. J'en ai pleuré. Quand j'ai fermé à 20h, que d'habitude on va jusqu'à minuit, 1h du matin, avec plein de monde là, j'ai fermé mes portes, je me suis assis à ma table et j'ai pleuré là. Tout le monde est triste.
À l'extérieur du circuit, une bande d'acharnés perchés sur le rond-point du Tertre Rouge tente d'apercevoir les bolides sur la mythique ligne droite des Hunaudières, Laure accro depuis toute petite.
On est venu d'Orléans sans même penser qu'on verrait quelque chose, mais rien que pour le plaisir, ne serait-ce que de les entendre. Moi, faut que ça m'explose les tympans, sinon il n'y a pas de bonheur. Ça me fait vibrer, je sens quelque chose en moi, j'ai envie de hurler, c'est tellement mieux que rien. On voit des gens avec des escabeaux, des tabourets, d'ici à ce que les gens se fassent la courte échelle pour passer par-dessus le mur, on va voir.
24 heures sans liesse, populaire, une première dans l'histoire de l'épreuve reine. Le Mans, François Coulon, Europe.
Et alors, pas de ferveur populaire, mais tout de même, hein, 60 équipages qui vont bien partir à 14h30.
Ouais, il faut le vivre quand même un jour. Hein. C'est quand même un monument
spectaculaire.
L'autre course du jour, les Naïcs, c'est le tour.
Et ce contre-la-montre décisif aujourd'hui, la Slovénie devrait être sur le podium demain sur les Champs-Élysées, puisque Roglic est leader devant son compatriote Pogacar. Alors, comment ces deux-là se sont-ils retrouvés à ce niveau dans un pays où le vélo n'est pas le sport roi? Théo Manval s'est rendu en Slovénie.
It's crazy. Même Aleš Kalan, le patron de la Fédération slovène de cyclisme, a du mal à réaliser. Quand j'étais jeune coureur et que j'ouvrais les journaux, dit-il, je voyais Hino, Fignon, c'était nos dieux à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les nôtres qui gagnent le Tour et je ne trouve même pas les mots. Pourtant, poursuit-il, c'est le fruit d'une lente montée en puissance. Des coureurs pro-performants en Slovénie, il y en a depuis le début des années 2000. Pas de grands champions, certes, mais à leur retraite, ils sont devenus entraîneurs et ça a tout changé.
Nos jeunes ont pu profiter de leur expérience, de leur stratégie et le plus important, je crois, de leur préparation au niveau mental. C'est ça qui fait des champions.
L'État slovène aussi a soutenu ses équipes. Un vélodrome tout neuf au sud-est du pays pour la plus grosse écurie privée, celle qui a fait éclore Roglic. Et Ukur Adam, 17 ans, qui explique également que les horaires scolaires en Slovénie facilitent beaucoup les choses.
En général, on commence l'école à 7h et on finit à 13 ou 14h. Donc on peut s'entraîner ensuite avec l'équipe. J'ai des entraînements tous les jours de la semaine et j'aimerais beaucoup passer pro, évidemment.
Reste qu'une ombre considérable plane sur ce développement. Plus de 40% des coureurs slovènes passés pro depuis 10 ans ont été suspendus pour dopage. Ljubljana, Théo Manval, Europe 1.
50 ans après leur séparation déjà, et les Beatles sont réunis à la Philharmonie.
Ouais, les Fab Four et leur tube indémodable, ils sont réinterprétés tout le week-end à Paris. Angèle Châtelier.
À la Philharmonie de Paris, aujourd'hui, plusieurs conférenciers vont débattre sur une question. Les Beatles sont-ils le Graal de la pop? Oui, répond le chanteur de rock français Rover à l'affiche de ce week-end spécial Beatles. Le Paris réinterpréter leur 7e album, Revolver, où il y a ce tube. S'approprier un tel monument de la musique, lourde tâche pour Rover, mais tout aussi excitante. Les Beatles ont toujours fait partie de sa vie.
C'est une musique qui va au-delà de la musique, qui a quelque chose d'assez magique. D'aller les interpréter sur scène, j'y vais avec une vraie joie de assez pure, avec une excitation presque d'enfant.
Même défi pour la chanteuse Keren Ann et pour le pianiste de jazz Bran Meldo, qui jouera deux fois ce week-end. Mais il a souvent repris les Beatles avec son style, comme lorsqu'il a revisité Blackbird. Même 50 ans après leur séparation, la Beatlemania a encore de beaux jours devant elle. Des concerts, promenades sont prévus à faire en famille. De quoi éduquer les oreilles des enfants à la musique de l'un des plus grands groupes de pop et de rock de tous les temps.
Ça marchera jamais.
Je ne m'y attendais pas à celle-là.
Ah là là, quel bonheur les Beatles. Une préférée, vous, des Beatles?
Ah bah, Harrison, moi, sur...
Harrison
ouais, ouais, ah ouais, celle-ci c'est particulièrement,
rare, hein. Ouais. Ouais. While My Guitar, Gently Weeps
aussi.
Oui, hein. Pas mal,
absolu.
Pas mal. Merci Lénaïque Monnier qui revient tout à l'heure pour le journal de 7h.